Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM. Voici Lila Info. Lila Info qui invite aujourd'hui donc Monsieur Bertrand Bonte, pardon, qui est directeur de Télécom Lille 1. Télécom Lille 1 qui fête ses 20 ans, donc l'occasion de faire un peu le point sur cette maison et puis voir aussi ses projets, en quoi Télécom Lille 1 construit l'avenir. Monsieur Bertrand Bonte, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de Télécom Lille 1, une maison qui existe depuis combien de temps?
Alors, depuis 20 ans, puisque nous fêtons les 20 ans cette année, et plus particulièrement en ce mois d'octobre 2010.
Et qui est installé où exactement?
Nous sommes sur le campus de l'Université de Lille 1, juste entre le bâtiment master ou ex-master et le bâtiment IUT.
On vous voit quand on passe sur la rocade, là.
Voilà, nous sommes positionnés juste d'une part de la rocade, de l'autre côté, ce sera le grand stade.
D'accord, bien placé alors,
Oui,
les jours de match.
j'espère.
C'est un bâtiment qu'on peut remarquer aussi, il a une forme particulière.
Alors, il a une forme particulière qui était la structure d'origine qui est l'équivalent de la moitié du bâtiment actuel, qui était un E. Comme ENIC, qui était le nom à la création de l'école.
D'accord.
Et puis une extension est venue et il y a maintenant plus de formes particulières, plus de symboliques particulières.
D'accord. Donc, bon, les télécoms, chacun le vit au quotidien. Hein, les télécoms, c'est, j'allais dire, très proche à la fois et très distant si on réfléchit à la technologie qui est quand même très évoluée et très évolutive.
Oui, alors. Derrière le mot télécom, il vaut peut-être mieux mettre aujourd'hui le mot technologie de l'information, qui est vraiment disséminée dans tous les domaines de la vie professionnelle et même de la vie privée. La partie télécom étant un aspect un peu restrictif aujourd'hui d'un point de vue métier.
Ce qui veut dire qu'un jour vous changerez de nom?
Oh, je ne le souhaite pas.
Donc, en
C'est
fait,
compliqué de changer de nom.
est-ce qu'on, au-delà de changer de nom, on peut dire que les télécoms, ça reste votre cœur de métier ou non?
Ah oui, ça reste notre cœur de métier, mais ça n'est pas que ça.
On a bien compris.
Voilà.
Donc, on va dire télécom et ses extensions.
Oui, si vous voulez.
Et donc, justement, le cœur du débat, on le sent bien avec l'arrivée d'Internet et aussi le fait que l'opérateur numéro un ait dû partager, faire des petits ou laisser un peu de place aux autres. On sent une société en plein bouleversement et quand on voit les différents opérateurs, la concurrence qui se joue, mais aussi quelque part le public qui ne s'y retrouve pas trop, c'est peut-être intéressant de voir déjà d'un point de vue structurel, d'un point de vue recherche, d'un point de vue de ce qui attend les gens technologiquement, où on en est un petit peu, de faire le point en fait.
Alors, c'est vrai que les évolutions, même sans forcément se retourner jusqu'à 20 ans en arrière, si l'on prend même une dizaine d'années, les évolutions sont énormes. C'est l'Internet qui a révolutionné complètement évidemment, le mode d'appréhension et de nos vies privées, mais aussi le mode de fonctionnement des entreprises. Donc, que la plupart soient déboussolés, ça n'est pas étonnant. Non, il faut s'approprier ces technologies et travailler avec.
Alors pour le public, ça peut être déboussolant, bien que les jeunes s'approprient ça assez vite. Alors justement, pour les gens qui ont été formés dans les écoles, comme les vôtres, comment on reste à flot par rapport à la nouvelle génération qui semble intégrer très très vite ces nouvelles technologies? Est-ce qu'il faut revenir à l'école pour faire une mise à niveau, d'autres formations? Comment ça se passe?
Alors, a priori, hein, les écoles d'ingénieurs, et la nôtre en particulier, forment des ingénieurs pour 40, 42, voire peut-être plus de vie professionnelle. Mmh. Il est important que le socle technologique et scientifique soit suffisant pour évoluer tout au long de ces 40 ans. Donc il n'y a pas besoin, dès qu'une nouvelle technologie sort, de revenir systématiquement à l'école.
Est-ce qu'on peut dire que c'est la différence entre une formation d'école et un BTS, par exemple?
Alors, oui, puisque bon, le BTS est sur déjà une durée beaucoup plus courte, puisqu'on est sur 2 années après le baccalauréat, avec quelque chose de très pratique. On est au niveau technicien et forcément très près des métiers. Et là, effectivement, il y a probablement plus à se recycler, ce que les entreprises font pour leurs techniciens quand il y a besoin. La formation d'ingénieur, une formation de niveau cadre, et elle doit permettre aussi d'évoluer tout au long de sa vie professionnelle. Mmh.
Donc ça sous-entend qu'il y a en permanence chez l'ingénieur un besoin, un désir de se tenir au courant, d'explorer de nouveaux territoires, hein, puisque là, ils sont multiples.
Ah ben j'espère bien que c'est ancré dans les ingénieurs. Si l'on veut que nos entreprises évoluent correctement vis-à-vis de ce qui se fait dans les autres pays, on a intérêt à avoir des ingénieurs et des cadres en général qui soient aptes à évoluer.
Alors parlons justement de notre pays. Comment il se positionne en Europe par rapport à ses compétences, par rapport aux capacités des ingénieurs à faire face, sinon à développer des projets innovants et qui restent compatibles avec les autres?
Alors, notre pays a déjà une particularité, c'est l'existence même de ces écoles d'ingénieurs qui sont excessivement nombreuses et très disséminées sur tout le territoire.
D'accord.
Donc finalement, pas toujours très lisibles vis-à-vis de l'étranger, mais qui ont une formation très reconnue dans les entreprises, en France et même à l'étranger. Donc c'est déjà une situation un petit peu particulière de notre pays. Alors après, comment cela est vu
en termes de compétences et notamment de capacité à développer des projets qui soient compatibles avec des projets d'autres pays, qu'il y ait une connexion qui soit faite, on est bon?
Alors, on essaye d'être bon en tout cas. Bon, l'université le fait à travers ses laboratoires de recherche, mais là on va dire que ça concerne peut-être plus un programme de doctorat où les doctorants, au moins en sciences et technologies, travaillent beaucoup sur des projets qui sont suscités par l'Europe. Et donc là, il y a forcément un mélange des cultures. En école d'ingénieurs, ce que l'on essaye de faire, c'est aussi de les apprendre à travailler en milieu international pour qu'ils s'imprègnent de la culture des autres pays et arriver à travailler avec les autres. Et donc, lorsque l'on a réussi à faire ça, nos élèves ingénieurs se rendent compte qu'en France, finalement, on n'est pas si mauvais que ça, on est même bon.
Est-ce qu'il y a une forme de protectionnisme, alors je ne vais pas dire français, mais ça peut être aussi un protectionnisme, par exemple américain, sur un certain nombre de concepts, de technologies, de brevets, etc.
Alors oui, le protectionnisme existe à partir du moment où un brevet a été déposé. Forcément, celui qui l'a déposé essaye de rentabiliser ses recherches. Donc oui, il y a un protectionnisme, mais après, ce protectionnisme est fait pour les rentrées d'argent, pour la diffusion des technologies, elle est forcément immédiatement mondiale.
Est-ce que le jeu est encore ouvert pour la recherche?
Le jeu est plus que jamais ouvert, oui. Après, c'est une question de moyens et de politique publique.
Mm-hmm. Est-ce que vous jugez que l'engagement public est suffisant? Vous allez dire qu'il n'est jamais suffisant, mais...
L'enseignant-chercheur que je suis ne pourra jamais vous répondre que c'est suffisant. Mm-hmm. Il suffit de regarder les pourcentages du PIB d'évoluer à la recherche dans un pays, dans un autre pays, et puis on dira que c'est moins en France qu'ailleurs. Après, il y a aussi toute une sorte de dynamique de recherche qui est culturelle à un pays. En France, la recherche, c'est l'État qui finance, par principe. Dans d'autres pays, c'est plus facile d'avoir des projets communs.
Mmh.
Alors même si ça existe quand même, il y a bien des entreprises qui s'y mettent, il y a des bourses chiffres qui montrent bien les liens qu'il y a entre les entreprises et les laboratoires, mais ce n'est pas toujours suffisant.
Mmh. Alors, on comprend bien que dans cette expansion technologique, il est illusoire de penser à une autonomie d'un pays. Ce n'est pas possible. Par contre, en termes de course vers le développement et vers la, l'équipement, vers les nouvelles formes, on ne sait pas ce que l'avenir nous attend. Est-ce que vous sentez qu'on est dans la course ?
Oui, sur beaucoup de points, on est dans la course. Les chagrins pourront toujours trouver qu'il y a beaucoup mieux ailleurs, mais on peut aussi regarder dans le rétro et voir qu'il y a beaucoup de monde derrière. Donc là-dessus, je ne suis pas particulièrement inquiet. Et puis, je l'avais dit un petit peu tout à l'heure, aujourd'hui, beaucoup d'équipes sont pluridisciplinaires. Beaucoup de projets de recherche se font, si c'est financé par l'Europe, c'est fait avec des Européens, mais on a aussi des équipes de recherche avec, qui collaborent avec des Américains ou des gens d'Asie du Sud-Est. Donc, ça permet en même temps, en permanence, de se jauger.
Mmh. Alors, c'est vrai que les télécoms et tout ce qui est associé, on pouvait à l'époque du téléphone parler de tuyaux en quelque sorte. Là, ça dépasse un peu ça.
Les tuyaux existent toujours et sont plus que jamais nécessaires. Même si le tuyau est dématérialisé, votre radio, quand elle émet, c'est l'air qui sert de tuyau. Ce sont les hertziens qui sert à propager le signal, mais le tuyau peut être le câble de cuivre qui vous amène la DSL chez vous ou la fibre optique. Donc ce tuyau est plus que jamais nécessaire et se doit d'être bien dimensionné pour faire passer l'ensemble des données. Mais en plus de l'aspect tuyau qui est matériel, il y a l'aspect contenu. Qu'est-ce que je fais passer dans mes tuyaux? Qu'y a-t-il d'intéressant à faire passer? Et qu'est-ce que je fais passer qui n'est pas utile?
Voilà. On essaye, nous, de mettre quelque chose d'utile dans les tuyaux à Radio Campus.
Je n'en doute pas.
Et on est très heureux que vous puissiez vous exprimer pour justement définir un petit peu cette mission, quelque part. Bon, c'est un métier, mais c'est aussi une mission de défendre et de développer ce qui fera l'avenir de nos jeunes, mais aussi de la France.
Ah oui, mais on est là dans... Enfin, Télécom Lilien est dans une mission de service public, donc et en formation et en recherche. Donc la formation, c'est la formation de cadres dans le domaine des technologies de l'information. Et puis en recherche, c'est participer aux efforts de recherche du campus de Lille 1, puisque tous nos enseignants-chercheurs sont dans les labos de l'université.
Alors, en termes de technologie, on voit toujours arriver des nouveautés, on voit arriver des flux de plus en plus rapides, etc. On a du mal parfois à cerner ce qui nous attend et parfois aussi on veut nous faire acheter des choses qui ne sont pas forcément utiles, vous voyez ce que je veux dire?
Complètement, c'est comme ça qu'il y a des gros bugs technologiques qui ne marchent pas. Souvenez-vous du Bebop, dont on a fait une pub considérable à un instant et qui est mort-né. Puis le SMS, dont on n'attendait pas grand-chose et qui aujourd'hui... abîme le pouce de tous nos enfants.
Alors entre deux, il y a eu aussi une génération Minitel. Est-ce qu'on peut faire le bilan de ça?
Oui, alors la génération Minitel, elle a eu ses gros avantages. Elle a quand même montré que la France savait innover. Et puisqu'il y a une innovation technologique, mais il y a aussi une innovation culturelle, le fait d'utiliser un terminal pour aller chercher des informations. Et beaucoup de néo-retraités ou de retraités utilisent encore le Minitel. Le Minitel n'est pas complètement mort. La plupart sont passés aux mêmes applications sur Internet, qui sont beaucoup plus conviviales, beaucoup plus rapides, etc. N'empêche que le fait d'aller chercher, d'avoir chez soi des informations qui avant n'étaient disponibles qu'en se rendant ou à sa banque ou dans un livre, etc. Sur le Minitel, on est le seul pays à avoir réussi ce pari.
Donc on n'a pas coupé le lien ou l'habitude pour les gens d'aller à la recherche de l'information, mais aussi d'une manière générale de l'autre.
Oui, alors on va sur la recherche de l'autre. Là, peut-être que l'on va arriver vers tout ce qui est réseaux sociaux et c'est une autre problématique différente. Mais oui, on a besoin on a toujours besoin de l'autre. Là, ce sont les sens sociaux qui vous le diront mieux que moi. Mais Internet permet de le faire de manière différente. Aujourd'hui, ce qu'on appelle plus convivial, comparer les deux interfaces. Écran d'ordinateur aujourd'hui et écran du Minitel d'alors, ça n'a rien de comparable.
Alors, on est aussi sur des générations d'appareils qui se renouvellent très vite. Là, c'est bon, il y a une course aussi à la puissance, à la rapidité, puis aussi au fait que économiquement, pour certaines sociétés, certaines firmes, il y a intérêt à faire des modifications et que les gens achètent du nouveau à chaque fois.
Oui, bien sûr, on crée le besoin. Alors, avec des modèles économiques qui sont parfois très différents, regardez le coût de revient d'un téléphone portable aujourd'hui et à combien vous le propose l'opérateur. Il y a forcément une perte de valeur que l'opérateur récupère en vous fidélisant pendant au moins 2 années. Mmh. Même chose, alors un modèle un petit peu différent pour tout ce qui est ordinateur. Le coût de l'ordinateur a tellement chuté que c'en est devenu un bien de consommation presque courant.
Mmh. Il y a aussi eu tout un moment, alors je ne sais pas si vous avez une réflexion là-dessus, où on a en quelque sorte fait payer les gens, le public, le grand public, pour favoriser en quelque sorte les gens qui en avaient vraiment le besoin, c'est-à-dire les industriels. On n'avait pas cette idée ?
C'est-à-dire
qu'on a fait acheter beaucoup de choses au grand public, des choses qui ne fonctionnaient pas toujours très bien et qui n'utilisaient surtout pas trop pour finalement amortir la recherche.
Oui, mais je crois quand même que les gens ne sont pas stupides. Ils n'achètent quelque chose que s'ils en ont besoin ou s'ils trouvent un intérêt. Et je reprends l'exemple du Bebop, il n'y avait pas d'intérêt. Mm-hmm. Une autre technologie est arrivée plus mature, plus pratique, qui était le GSM, et c'est le GSM qui l'a emporté. Mmh.
Mais donc, j'ai connu des gens, justement, dans l'intergénération, qui ont acheté des ordinateurs, mais qui n'ont jamais su s'en servir.
Ah oui, alors, oui, effectivement, mais ça existe aussi pour des machines à laver linge qui seraient programmables et dont on n'utilise que 3% en appuyant juste sur le bouton on-off. Oui, effectivement. Mais là, j'ai envie de dire que ça dépasse le domaine des télécoms et des nouvelles technologies. C'est un problème de marketing, des affaires. Regardez les voitures. Si, en reprenant l'exemple, on aurait tous une voiture qui serait très simple, avec 4 roues, un volant et des sièges.
Alors, vous l'avez un peu exprimé tout à l'heure. Créer un besoin, bon, pourquoi pas, mais il faut quand même que ça s'appuie sur un besoin réel.
Oui, les gens ont fonctionné pendant des milliers d'années sans pouvoir communiquer à distance. Et puis après est venu le téléphone filaire, qui était une réelle avancée. Et puis les gens ne pouvaient plus s'en passer. Et puis pendant tout ce temps-là, il n'y avait pas le téléphone mobile. Et ça ne gênait pas les gens. Ils ne pensaient même pas au service que ça aurait pu rendre. Le GSM est arrivé, les gens se sont équipés et se sont rendus compte que ça avait vraiment un réel intérêt. Aujourd'hui, dites aux personnes que vous avez supprimé leur mobile, elles sont toutes orphelines.
Mmh. Alors, il y a aussi tous ces gens qui, alors on ne sait pas trop s'ils sont en lien ou non avec l'extérieur, mais qui écoutent toute la journée des choses avec leur Walkman, etc. Donc certains sont en réseau, d'autres pas. Est-ce qu'il n'y a pas une forme particulière d'enfermement dans ce cadre-là ?
Ah si, moi, si. Là, pour moi, réellement, ces personnes que l'on voit à longueur de journée, et notamment dans les transports en commun, par exemple, c'est symptomatique.
Il y a parfois 20% de gens qui sont comme ça.
Hein. Ah oui, avec un casque vissé sur les oreilles, et parfois même un volume bien trop fort qui peut dégrader l'audition, soit dit en passant. Oui, c'est réellement un enfermement, mais là, ça dépasse largement la technologie. C'est l'usage, ce sont les usages.
Alors justement, est-ce que vous avez une réflexion sur la responsabilité ?
Ah oui, il y a toujours des réflexions sur la responsabilité.
Est-ce qu'il y a de l'éthique dans l'éthique ?
Oui, bien sûr, il y a de l'éthique dans l'éthique. Mais malheureusement, cette réflexion éthique ne peut avoir lieu que lorsque les gens en ont formé les usages. Et ça, c'est très difficile à prédire, les usages.
Mmh. Est-ce qu'il y a une relation que vous avez avec, entre guillemets, les clients futurs ou actuels d'ailleurs, des technologies ? Je parle du grand public.
Finalement, les clients des futures technologies, ce sont bien nos étudiants.
Oui.
Qui seront après les gens qui auront un certain pouvoir d'acheter ces nouvelles technologies. Donc oui, on a une relation avec eux. On voit ce qui les passionne ou au contraire ce qu'ils mettent de côté. Maintenant, on a quand même affaire à un public qui est plutôt pro-technologie, puisqu'il vient chez nous.
Le fait d'être implanté dans une ville, Villeneuve-d'Ascq, qui était une des premières à lancer la fibre optique, est-ce que c'était un signe?
Non, je crois que le signe fort, c'est l'université Lille 1 qui est sur Villeneuve-d'Ascq. S'il faut y voir un signe,
d'accord,
c'est celui-là, le signe fort. La fibre a été installée très tôt dans beaucoup de villes et il n'y a pas eu d'usage immédiat. On a posé beaucoup de fibres à toute une époque et sans avoir le contenu à faire passer dans ces tuyaux-là. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas, mais il n'y a pas eu de lien de cause à effet sur l'installation de l'école. Sur le campus.
Donc, une université comme Lille 1, on va dire plus globalement Lille, comment ce pôle de compétences se positionne par rapport à d'autres grandes universités?
Alors, l'université de Lille, si j'apprends dans sa très grande dimension future, ou même l'université Lille 1, qui est la partie sciences et technologies, dans le domaine qui nous concerne, est un des acteurs majeurs dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. N'oublions pas que sur ce campus, ou juste à côté, il y a des laboratoires tels que l'EIFL en informatique, l'IEMN en microélectronique, nanotechnologie, le LAGIS, il y a aussi l'INRIA, l'INRETS a un département sur la sécurité des transports. Tous ces gens-là travaillent ensemble et forment une masse critique excessivement importante dans le domaine des TIC. Donc Lille 1 est vraiment en pointe dans ce domaine.
Est-ce que vous avez, en tant que maison, une spécialité?
Alors, oui. Nos équipes de recherche, donc, qui sont associées à l'IFL, ont un axe de recherche autour de l'image 3D. Donc, scanner 3D pour la reconnaissance de formes. Ça, c'est un des axes forts. Et puis l'autre axe, c'est sur la communication numérique.
D'accord. Alors là, on voit arriver la 3D au cinéma, bientôt sur les écrans de télévision.
Oui.
Vous êtes associé un peu à ça?
Ah, on y travaille. Alors, il y a une partie 3D qui concerne la partie traitement électronique et le développement des composants. Là, ça n'est pas notre domaine. Et puis après, il y a une partie de l'image 3D du codage où là, on travaille dessus aussi.
Est-ce que vous voyez l'avenir très positif pour l'humanité? Est-ce que vous pensez y contribuer?
Votre question est très difficile, là, bien évidemment. je suis plutôt un optimiste. J'ai envie de dire que je vois l'avenir de manière positive, puisque j'ai plutôt confiance en l'homme. Maintenant, c'est vrai qu'on a un certain nombre d'éléments qui nous tendrait à prouver le contraire, mais je crois quand même que l'homme est plus fort que tous ces petits trucs qui vont pas.
Qu'est-ce qu'il a comme marge de manœuvre et comme capacité à agir ou à réagir par rapport à un environnement qui est en expansion, en extension, et dont il ne maîtrise pas forcément les règles, ni forcément, il ne voit pas forcément aussi où on veut le mener. Est-ce qu'on veut le mener quelque part et où?
Il faudrait peut-être me définir qui est « on ». Dans le « on veut le mener
ouais, ». Alors vous parliez tout à l'heure de créer des besoins. Est-ce que l'industrie souhaite mener l'homme quelque part et où?
L'industrie en tant que telle, elle cherche à faire du business. Est-ce qu'elle cherche réellement à mener les hommes et les femmes quelque part? Je ne suis pas sûr que ce soit son problème. Après, c'est un problème de réflexion de chacun où il veut aller.
Quelle est la part d'autonomie, de marge de manœuvre, on va dire, de l'individu, du citoyen dans ce monde des technologies?
Il a la marge de manœuvre qu'il se donne. Je coupe mon portable quand je veux. Je l'allume quand je veux. L'ordinateur, c'est pareil. Voilà ma réponse. On est encore capable... On n'a pas notre téléphone vissé dans l'oreille en permanence, pour prendre que cet exemple-là. Donc, on a encore une marge de manœuvre.
Pendant combien de temps?
Joker. Non, mais là je ne sais pas, mais vous semblez très, très pessimiste.
Mais je vois beaucoup d'accros hein, à Internet ou autre, et il y a même des pays où ça commence à poser des problèmes, où on commence à s'intéresser aux problèmes.
Alors, Oui, mais il y a des accros. On peut prendre le jeu vidéo. Beaucoup d'ados sont accros aux jeux vidéo et n'ont plus aucune relation sociale. Oui, ça pose un problème. Mais est-ce qu'avant, ce n'était pas d'autres problèmes d'ados qui traînaient ou qui étaient en permanence sur un terrain de sport et c'est pas pour autant que les devoirs à la maison étaient faits dans un cas comme dans l'autre. Donc, je veux dire, oui, ça peut poser problème. Maintenant, ce sont des problèmes très récents et il faudra toujours un certain temps pour résoudre ce type de problème.
Est-ce que le fait d'avoir des sociologues dans une université comme l'ILA permet aussi d'avoir cette dimension de réflexion autour d'un projet d'école, hein?
Oui, alors on travaille. Je vais. Faut que je fasse attention à ce que je dis parce que c'est une UFR éco et sociologie. Donc on a un département à l'école qui est éco-gestion avec des économistes de l'université et ces gens-là travaillent avec les sociologues effectivement.
Donc, maintenant qu'on commence à avoir une idée de la dimension de l'école, de son cadre, est-ce que vous êtes, par rapport à de nouvelles générations d'étudiants, intéressé par un certain type d'étudiants, comment on peut y accéder, et aussi, est-ce que vous êtes en attente particulière?
Alors, on est toujours en attente particulière, et ce que je veux dire, assez simpliste, on est en attente de bons étudiants motivés. Mais ça, tout responsable de formation peut le dire. Donc, notre recrutement est au niveau bac essentiellement. Et si je devais répondre à votre question de manière un peu plus précise, oui, on est en attente de filles. On aimerait bien que les filles se tournent un peu plus vers les métiers technologiques, qu'elles fuient un petit peu trop pour aller essentiellement vers les sciences du vivant. Et on sait qu'il y a de très belles carrières dans le domaine. Et quand je dis très belles carrières, c'est des carrières épanouies et pas seulement un chiffre en bas de la fiche de paye.
Voilà, eh bien, il n'en reste plus qu'à donner le contact de l'école. Donc, on peut peut-être appeler Télécom Lille 1, un site internet peut-être.
Oui, télécom-lille1.eu.
Voilà, vous saurez tout, ou presque, pour compléter cette émission. Merci, monsieur Bertrand Bonte.
Merci.
Thank you.